Ajouter un peuple en camp de concentration. Je pèse mes mots, on a concentré ici la... Bon, Israël, pour l'instant, n'a pas l'intention d'occuper ce territoire, pour plein de raisons, mais donc elle y bloque les populations et les oblige à vivre dans des conditions qui sont absolument atroces. Absolument atroces. On donne plein d'exemples. Je ne vais pas dire tout ce qu'il y a dans l'article, je veux dire ce qu'il me paraît important à dire, quoi. Par exemple, les pêcheurs. C'est une zone côtière, il y a des petits pêcheurs, ça fait partie des ressources alimentaires de cette population qui n'est pas très riche. Il y avait des centaines, même des milliers de petits pêcheurs qui allaient avec leur barque en mer. Ils n'ont plus le droit, car 85% des eaux territoriales, qui pourtant sont officiellement et en droit utilisables par les Palestiniens, sont interdites. Parce que c'est la marine israélienne qui croise avec des vedettes rapides et qui tire à vue. Et qui tire à vue, hein, ils ne s'emmerdent pas, hein, les droits de l'homme et toutes ces conneries dont on nous abreuve dans nos médias de chez nous, tout ça n'a pas lieu, hein, dans ce territoire. Tout autour de ce territoire d'ailleurs de Gaza, il y a des troupes de l'armée israélienne, ces gens ont des snipers, hein, qui tirent avec des fusils et qui font éclater les têtes, les jambes, etc. Enfin, qui tirent à vue sur les gens qui viennent manifester, parce que bien sûr cette population manifeste contre son incarcération. L'agriculture, le secteur agricole fait encore travailler 44 000 personnes. C'est pas rien quand même, hein, même s'il y a 3 millions de Gazaouis, il y a quand même des agriculteurs encore qui s'obstinent à vouloir faire du blé, des oliviers, de la vigne, etc.
Les oliviers, ceux que les bulldozers de l'armée israélienne n'ont pas arrachés, quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des récits dans cet article insoutenables. Hein. On tire à vue sur les paysans. On leur interdit de mettre un phare sur leur tracteur. Ils n'ont pas le droit de travailler la nuit. Hein. La nuit, tout feu pour l'armée israélienne est un feu dangereux, etc. Et donc, on tire à vue et on tue les paysans en toute impunité. Il y a des milliers de gens qui sont assassinés par l'armée israélienne depuis des années. Hein. Ce blocus est une chose absolument atroce. Hein. En fait, cette zone est coupée du monde depuis 8 ans. Les Israéliens ont tant fait qu'ils ont fini par affaiblir le Fatah, qui était l'organisation de la libération de la Palestine, et en fin de compte ont, de façon à mon avis tout à fait volontaire, fait élire le Hamas. Et le Hamas, c'est une organisation palestinienne musulmane, enfin qui confessionnelle, alors que le Fatah était laïque. Israël a poussé en fin de compte la population dans les bras du Hamas. Et à partir de cette époque-là, eh bien, ils ont considéré le Hamas comme une organisation terroriste et ont traité les Palestiniens contre des terroristes en puissance et les ont poussés au désespoir. Alors, Gaza a subi deux guerres depuis, hein, lancée par Tel Aviv en 2006, puis 2008-2009, 1800 morts côté palestinien, une vingtaine du côté israélien. Donc on voit que les Israéliens sont menacés, évidemment, par les affreux Palestiniens terroristes, hein, et qu'ils ont bien raison de se défendre, hein, bien sûr. En 2017, après deux autres guerres, 2012-2014, bilan cumulé, 2500 Gazaouis tués contre 72 Israéliens. Vous voyez, la dégradation de la situation s'est accélérée, ce qui paraît fantastique, quoi, dans cette situation, globalement, de la Palestine et d'Israël, et plus particulièrement ici de Gaza. C'est que cette situation est connue, elle est balisée par les organisations des Nations Unies, la CNUSED, l'Organisation des Réfugiés, une quantité d'institutions internationales officielles qui condamnent, dénoncent, décrit cette situation et démontrent que tout ça est fait dans la violation la plus flagrante des lois internationales. Ben, il n'y a pas de sanctions. Et la communauté internationale, hein, c'est nous, hein. C'est nos pays, etc., ne se sont pas fendus de trucs pour dénoncer, etc. Alors que Venezuela, Hong Kong ont donné lieu à des protestations vertueuses de nos gouvernements en disant que les droits de l'homme, la démocratie. Là, on est loin des droits de l'homme et de la démocratie. On est à un écrasement, on est à une élimination physique des gens. Ça, c'est le comportement d'un État terroriste, d'un État d'apartheid et d'un État nazi. Voilà, les Israéliens se comportent comme des nazis. Alors on va me tomber dessus en disant que je suis antisémite. Alors ça ne me fait ni chaud ni froid. En réalité, les antisémites, les gens qui déshonorent la mémoire des exterminés de la Shoah, ce sont les Israéliens. Ce n'est pas des gens comme moi. C'est inhumain. C'est indigne de l'humanité. De la part de gens qui, pour certains, sont des descendants de l'extermination nazie, ça me met hors de moi. Des gens se sont battus aux côtés de ces gens pendant la guerre, contre l'extermination, contre la persécution, etc. Et maintenant, que se passe-t-il? Les descendants, moralement, les descendants de cette extermination par les nazis, commettent des crimes contre l'humanité largement aussi condamnables que cette extermination. Je poursuis quand même un petit peu, parce que la description de l'hôpital Al-Shifa, c'est éprouvant, quoi. Il y a des centaines de jeunes, 15, 16, 17 ans, etc., qui sont éclopés, y compris des balles. Parce qu'il y a une bande qui est interdite à côté de la frontière, qui est pourtant une frontière officielle, reconnue, etc. Israël interdit de déambuler dans une bande. Or, les jeunes palestiniens protestent, et ce sont des gens qui aspirent à la liberté, donc ils vont protester. Et là, de l'autre côté, il y a des soldats israéliens, bien sûr, pays démocratique, hein, qui tirent à balles réelles, bien sûr, et à balles explosives sur ces jeunes gens. Ils sont éclopés, ils ont une jambe en moins, un bras en moins, etc., la moitié du visage en moins, et tout, etc. Or, dans ces hôpitaux, Israël organisant le blocus, il n'y a pas de médicaments. La moitié des médicaments ne sont pas disponibles, dit l'article. On manque cruellement de médicaments. Il y a des opérations qui ne sont plus possibles, d'ailleurs. Et quant aux médicaments contre le cancer, ils ne sont pas accessibles. Hein, la bande de Gaza, les gens peuvent mourir en quelque sorte. Comment appeler ce type de blocus? C'est un blocus humain? C'est un blocus humanitaire? Quelle raison donner à cette chose-là? Une chose condamnée par le droit international, par la morale internationale, par le droit des gens, etc. Il n'y a pas d'excuse. Israël n'a aucune excuse, aucune explication. Je poursuis, il y a aussi une visite de camp, etc. Bon, tout simplement, c'est insupportable. Toute la dernière partie de l'article porte sur la politique, c'est-à-dire le Hamas, le Fatah, quelle stratégie doivent adopter les Palestiniens, les gens de Gaza, face à cette situation insupportable. Ben, il n'y en a pas. On a l'impression, à la suite de l'article, qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de futur, si la communauté internationale, si les gens dans le monde ne se mobilisent pas contre cet état de fait, eh ben, il va y avoir une extermination dans 10, 15, 20 ans de ces populations coincées dans des zones. Netanyahou, pour préparer sa campagne électorale, a promis d'annexer une partie de la Cisjordanie, quoi. C'est-à-dire que c'est fini, il n'y a plus de Palestine. Il n'y a plus de Palestine, il n'y a plus de peuple palestinien, etc. C'est à désespérer. Lisez cet article malgré tout, il est extrêmement intéressant, même s'il fait un peu mal quand même.
Une histoire cruelle qu'on rappelle dans une autre émission que vous pouvez consulter sur notre site polémix et lavoixoff.com, qu'on avait intitulé « Quand David devient Goliath ». L'une des ironies et des paradoxes épouvantables de cette histoire, j'ai cru comprendre que la création de l'État d'Israël, à laquelle des gens pensaient déjà depuis les années 20, a été accélérée par la découverte des crimes des nazis et de l'extermination de près de 6 millions de juifs, et que ça a fait un traumatisme mondial qui a été instrumentalisé pour permettre la création de cet État d'Israël, qui à l'époque d'ailleurs pouvait peut-être paraître légitime à certains. Et une autre remarque, il existe un lobby juif américain qui œuvre au soutien d'Israël, mais qui perd en puissance, car de nombreux juifs américains en ont marre de cette histoire honteuse et pour eux lointaine. Ce fameux lobby juif américain, encore puissant mais minoritaire, n'est pas le principal artisan du soutien des USA à Israël. Les principaux acteurs de soutien sont surtout les très puissants chrétiens fondamentalistes, convaincus dans leur faribole biblique que Jésus reviendra le jour où tous les juifs seront rentrés en terre promise, ou ce genre de conte de bonne femme à dormir debout.
Oui, mais il s'est créé une situation. On ne va pas revenir sur cette histoire-là. Moi, j'ai pris Gaza aujourd'hui, la Palestine aujourd'hui. À la limite, on pourrait remonter simplement aux accords qui ont eu lieu il y a quelques années, où les uns et les autres avaient accepté l'existence de deux États, un État d'Israël, juif, et un État arabe, qui ne veut pas dire musulman, hein, un État arabe de Palestine, sur les territoires qui n'avaient pas été annexés par Israël, c'est-à-dire Gaza, la Cisjordanie, etc. Or, aujourd'hui, cet espoir qui a eu lieu quand même de partage de cette terre palestinienne, tout ça s'évanouit dans la mesure où la politique d'Israël est une politique exclusive, c'est une politique de liquidation du peuple palestinien, l'établissement de la souveraineté d'Israël sur la totalité de ces terres que la droite israélienne religieuse revendique comme étant les anciennes terres du grand Israël, du grand territoire de Salomon, de David, etc., etc., d'un passé qui a 3000 ans. C'est insupportable, évidemment. N'empêche que c'est ce qui se passe. Alors cette situation, elle est bloquée parce que la population israélienne, elle ne s'accroît pas aussi vite que la population arabe, pour commencer démographiquement. Est-elle capable d'occuper la totalité de ce territoire sans en expulser les habitants d'aujourd'hui, etc. Ça paraît difficile. Donc quelles peuvent être les solutions? Pour l'instant, Israël a adopté la solution de l'apartheid, hein, comme en Afrique du Sud. On fait des bantoustans, des zones entourées de murs ou de barbelés où se trouvent confinés les Palestiniens, qui sont les habitants d'origine de la... Et puis, bon, bah, y a Israël, la population d'Israël à côté, etc. Bon, c'est intenable comme situation.
Je rappelais simplement cette histoire que ce n'est pas le fameux lobby juif, hein, parce qu'évidemment, dès qu'on parle de ça, ça fait gueuler les antisémites. Oui, maintenant, les juifs... Non, en fait, les juifs et aux États-Unis ne sont que très peu acteurs de cette histoire. Ce sont les fondamentalistes, évangélistes, chrétiens qui sont à l'origine de ce truc-là.
Cela dit, les juifs français du CRIF, l'organisation qui se prétend représentative des juifs français en France, elle est sioniste, c'est-à-dire qu'elle soutient cette politique d'Israël. Et ça aussi, ça fait mal au tété. Hein.
Rappelez aussi qu'en Israël, bah, tous les Israéliens ne sont pas de droite, qu'il y a eu et qu'il y a encore une gauche israélienne et des Israéliens qui sont tout à fait hostiles à la politique fasciste de leur gouvernement. Ils sont de moins en moins nombreux, ils sont de plus en plus aphones, mais ils existent. Faut pas mettre tous les Israéliens dans le même sac. Tous les Israéliens ne sont pas des fascistes.
Un des paradoxes et même un des scandales, une des hontes de cette déclaration Balfour, c'est qu'elle s'est fondée, elle a violé un des principes qui était celui des pays alliés en 1918, qui était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, utilisé pour démembrer les empires russes, allemands, austro-hongrois et ottomans, en demandant aux gens, est-ce que vous voulez être polonais ou russe, est-ce que vous voulez être tchèque ou autrichien, etc. Et on l'a proposé à tout le monde, sauf aux Arabes. Aux Arabes, on n'a pas demandé si vous voulez ou non d'un foyer juif. Et deuxième point, c'est que la tactique des Israéliens pour la Palestine, c'est pas tellement d'exterminer, ça serait tellement visible que ce serait scandaleux. Leur tactique, c'est de pourrir la vie des Palestiniens en épuisant les sources d'eau, en faisant des checkpoints partout, en limitant les cultures, en interdisant de construire, leur pourrir la vie d'une telle façon que un jour, ils finissent par s'en aller. Un des buts, c'est on va annexer la Cisjordanie et les autres, ils auront le statut des habitants de Porto Rico. Porto Rico, c'est une colonie américaine où les gens, ils ont la citoyenneté américaine, mais ils ne peuvent pas voter. Un état d'apartheid.
La suite de notre émission spéciale Monde Diplomatique avec cet article qui date de l'édition de juin 2019, Philippe, que tu as choisi. Un article signé Akram Karieff, qui est journaliste, et intitulé « Iran, Téhéran pourrait-il résister à une attaque américaine ? Défense à double détente en Iran ». Le 5 mai, déploiement dans le golfe arabo-persique du porte-avions Abraham Lincoln, ainsi que d'une force de bombardiers. Évoquant une réponse à des signes et à des avertissements inquiétants qui ont engendré une escalade, John Bolton, conseiller à la sécurité nationale, mettait en garde l'Iran contre toute attaque visant les intérêts américains dans la région. Montée de la tension dans la péninsule arabique et dans le Golfe, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, alliés de Washington, désignent l'Iran comme responsable du sabotage de pétrolier à proximité du détroit d'Ormuz et du regain d'activité de la rébellion houthiste au Yémen. Les États-Unis ne cherchent pas la guerre avec le régime iranien, mais nous sommes totalement préparés à répondre à une attaque, qu'elle soit menée par procuration, par les gardiens de la révolution ou par les forces régulières iraniennes, ajoutait le conseiller du président Donald Trump. Philippe.
À quelle force se heurteraient les Américains s'ils venaient à attaquer physiquement les Iraniens, eh bien les Américains se heurteraient à deux forces. D'une part à l'armée régulière et d'autre part aux gardiens de la révolution, également connus sous le nom de Pasdaran. Alors, ça correspond à peu près à la dualité entre une armée régulière et une milice, un petit peu comme on pourrait dire, par exemple, en Espagne, jadis, l'armée régulière et la phalange, ou, dans l'Allemagne, d'entre les deux guerres, l'armée régulière, la Wehrmacht, et puis le corps des SS. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut entendre par là que l'une est une émanation de l'État et que l'autre est une émanation du régime. Dans le deuxième, ils sont beaucoup plus politisés et ils ont plusieurs fois servi de rempart au régime en déjouant des complots.
Alors, tu sais, dans l'Espagne de 36, on disait nos Pazaran. Hein.
Alors, tout à fait au début, la révolution a eu lieu au début du mois de février 79. Et tout à fait au début, l'armée régulière qui avait défendu le Shah a été prise en suspicion. Et beaucoup d'officiers, ils ont été emprisonnés, certains on les a lynchés, d'autres ont été mis à la retraite, d'autres ont été mis à l'écart. Tout. Et ça n'a pas duré très longtemps, jusqu'à l'attaque en 1980, jusqu'à l'attaque de l'Iran par l'Irak de Saddam Hussein, auquel cas il n'a bien fallu donc parer au plus pressé. On a libéré tous les officiers prisonniers. On leur a redonné un statut, un grade. Et cette armée régulière est une armée qui a réussi, après plusieurs mois de combat, à repousser l'armée irakienne, à la repousser victorieusement. Mais c'est qu'à ce moment-là, la deuxième composante armée de l'Iran, qui était les gardiens de la révolution, les Pasdaran, armée idéologique, eux se sont dit, comme on a ramené les Irakiens sur leur ligne de départ, eh ben on va faire mieux. On va filer jusqu'à Bagdad, on va les exterminer. Et à ce moment-là, les Pasdaran sont entrés en route. Manque de peau, l'Irak a été puissamment aidé par tous les pays occidentaux et aussi par l'URSS. Donc ça aboutit à un échec sanglant des Pasdaran. Et en 88, on peut dire que la guerre s'est terminée à peu près sur un match nul. Alors, l'armée régulière, c'est une armée de 200 ou 350 000 hommes, terre, air et mer, mais qui, en gros, a des équipements souvent assez dépassés. Bon, c'est une armée qui sait bien se battre, mais qui n'est pas faite pour l'offensive, qui est faite plutôt pour la défensive. En revanche, les Pasdaran sont une autre partie des forces armées iraniennes. Les Pasdaran, eux, ils ont une vocation offensive, en sens que, par exemple, ils ont entraîné le Hezbollah au Liban, qui est chiite. Ils ont aidé les chiites irakiens. Ils ont aidé également les chiites syriens à combattre, notamment Bachar el-Assad. Et ils disposent d'un certain nombre de missiles et ils peuvent avoir des rôles offensifs, notamment dans le tout petit détroit d'Ormuz, qui est très très étroit, et puis en mettant par exemple des mines, en s'attaquant aux pétroliers, aux stations de désalinisation, aux navires de guerre étrangers, etc. Ils n'ont pas une force qui permettrait d'écraser l'armée américaine, évidemment, mais ils ont ce qu'on peut appeler une force de nuisance, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de drones, ils ont une très bonne DCA, des armes antiaériennes, avec laquelle ils ont abattu notamment un drone américain. Et si les Américains se risquaient à vouloir attaquer l'Iran de façon terrestre, ils risqueraient fort évidemment d'avoir affaire à très forte partie. Et on peut penser que c'est la conscience de ceci qui a conduit il y a quelques semaines Donald Trump, qui avait préparé une riposte donc à l'abattage de son drone au-dessus des eaux territoriales iraniennes. Cette riposte n'a pas eu lieu parce que il craignait d'être entraîné dans un conflit qui risquait d'être long et sanglant. Et surtout, à très peu de temps avant les élections, alors que Donald Trump avait promis qu'il se retirerait partout, qu'il se retirerait d'Afghanistan, qu'il ne ferait plus de guerre ici, qu'il ne ferait plus de guerre là. Il a fait beaucoup de rodomontades, par exemple à l'égard du Venezuela, mais il ne les a pas concrétisées. Et un des signes les plus manifestes, c'est le limogeage très récent de son conseiller spécial, un va-t-en-guerre, Trump disait de lui, si je l'écoutais, on aurait une guerre par jour. Il s'appelle John Bolton. John Bolton, qui était ce qu'on appelle un faucon, qui était déjà connu sous plusieurs présidents précédents, un va-t-en-guerre qui présentait d'ailleurs cette caractéristique très intéressante d'être un homme qui, à l'époque de la guerre du Vietnam, avait fait des pieds et des mains pour non seulement ne pas partir au Vietnam, mais même carrément ne pas faire son service militaire, comme Donald Trump et comme le deuxième George Bush. Donc c'est souvent les civils qui n'ont pas du tout connu ni le service militaire, ni a fortiori la guerre, qui sont le plus belliqueux avec la peau des autres.
L'un des problèmes majeurs de la planète et des États-Unis étant qu'il y a des industriels américains qui fabriquent des armes, qui ont envie de les vendre, et que pour vendre des armes, en tout cas les faire acheter par le contribuable, c'est mieux d'avoir des guerres. C'est quand même plus pratique. Il y a bon business. Une chose que le président Dwight Eisenhower, pourtant républicain, qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être un gauchiste, avait signalé en sortant de sa présidence. Vous tapez sur YouTube hein, Eisenhower ou Ike, lobby militaro-industriel, et vous verrez, c'est tout à fait fascinant ce témoignage et cet avertissement pour la paix et la démocratie mondiale que Eisenhower lui-même a lancé à la planète.
Je trouve ça étonnant que ça vienne de sa part.
Parce que des fois, peut-être, il y a des braves mecs de droite et militaires, ouais, ça peut arriver sûrement.
Et puis, il n'avait plus rien à perdre, hein, puisqu'il était en fin de son deuxième mandat. Mais ce qu'il a dit s'est révélé tragiquement exact dans les décennies et les décennies qui suivent.
We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Il y a des historiens un petit peu grincheux qui ont fait un petit calcul. Bon, les États-Unis ont un peu plus de 2 siècles d'existence. Ils ont fait en moyenne, depuis leur fondation, une guerre tous les 2 ans. C'est dans l'époque moderne contemporaine. C'est l'État le plus belliqueux du monde. Voilà. Je crois que si on prenait l'Empire romain, il a des périodes très difficiles enfin, sur le contrôle de ses marges des frontières. Mais il y a aussi la période de la paix romaine, hein, sur 2 siècles environ. Ça devrait faire baisser la moyenne. Mais enfin, bref, on pourrait faire des calculs à l'infini. Bon, les États-Unis sont jusqu'à présent un pays ultra-interventionniste, les fameux gendarmes du monde. Et effectivement, il y a une sorte de synergie entre la volonté impériale et les intérêts militaro-industriels. Voilà, l'un alimente l'autre et inversement.
C'est que souvent, les Américains, alors au lobby militaro-industriel, commandent des armes qui sont complètement inadaptées à leur politique et au terrain. Par exemple, le bombardier B-2 qui coûte 2 milliards pièces, il coûte plus cher au kilo que l'or. Bon, ou les avions F-22 et F-35 qui sont des gouffres financiers, alors que d'une part, les soldats américains ont des gilets pare-balles extrêmement médiocres et qu'ils ont souvent été obligés de souder des plaques d'acier le long de leurs portes de leur Jeep parce que celles-ci, elles étaient traversées comme de rien. Donc, c'est un armement complètement inadapté au type de guerre qu'ils mènent. Et c'est un armement souvent beaucoup trop cher et qui n'est pas du tout fait pour la politique.
Quand Nous, les Français, on a des options stratégiques bien plus malignes. On construit des porte-avions pour surveiller des bouches de métro contre les vilains islamistes qui viennent y mettre des bombes. Il me semble avoir lu d'ailleurs que la puissance industrielle militaro-américaine dépense quelque chose comme 2 milliards de dollars par jour, du moindre ouvrier qui fabrique des balles dans une usine jusqu'au marin sur les porte-avions, plus le matériel, plus le matériel. Ça fait cette somme rondelette, je crois, de 2 milliards de dollars par jour. Une partie infime de cette somme suffirait pour résoudre le problème de l'eau potable dans le monde.
À l'intention de la conscience écologique mondiale, l'organisation la plus polluante du monde, toutes catégories confondues, c'est l'armée américaine.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette émission Malpolie que vous pouvez réécouter sur notre site polymix et lavoixoff.com avant qu'on se retrouve très vite sur cette même antenne. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr.
Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
Contrairement à ce que l'on entend, les déplacements liés au changement climatique ne sont pas nouveaux. Ils sont en revanche en forte croissance à cause de la hausse du niveau de la mer, du recul des forêts tropicales et de l'avancée des déserts. Selon la définition de l'Organisation internationale des migrations, un migrant environnemental est une personne qui, pour des raisons contraignantes de changement soudain ou progressif de l'environnement, est obligée de quitter sa résidence habituelle. Ce statut, récemment défini par l'ONU, n'offre pourtant aucune reconnaissance juridique et empêche donc de dresser des statistiques précises. On a beau parler du réchauffement climatique depuis 40 ans, cela fait 20 ans seulement que les gouvernements de ce monde s'y intéressent, plus exactement depuis la conférence de Kyoto en 1997, et encore moins que la question des éco-réfugiés est débattue. Pourtant, force est de constater que ces déplacements contraints par Dame Nature ne sont pas nouveaux. Entre 1992 et 1993, par exemple, les agriculteurs du Mozambique, en Afrique de l'Est, ont migré en nombre vers la Zambie voisine, car leurs terres n'étaient plus fertiles. À l'époque, on parlait de famine, mais c'est bien la sécheresse causée par l'avancée du désert de Namibie qui a en définitive contraint ces cultivateurs à quitter leur pays. La nature et l'homme dans tout ça. En transformant son environnement physique, ne le rend-il pas plus vulnérable aux désastres? C'est ce que se demande la géographe Véronique Lassaillie-Jacob dans un article publié dans la Revue européenne des migrations internationales. C'est ainsi que la pression démographique et le contexte politique ont joué un rôle majeur dans l'étendue des dévastations provoquées par les inondations du fleuve Yangtze-Tiang en Chine pendant l'été 1998. Ces catastrophes ont été imputées aux pluies de mousson, mais très peu de personnes ont mentionné le rôle de la déforestation massive du bassin du fleuve. 85% des forêts avaient été rasées. Comment le climat façonne les migrations? C'est le thème de cette émission. Nous avions eu le plaisir d'inviter Michel Dess et Étienne Chauveau, tous deux géographes à Ligarin, accompagnés des chroniques de Maxime Labatte, Vassili Moreau et Cathy Dogon. Bonne rentrée au Labo des Savoirs. 11 octobre 2008, première conférence sur les migrations liées à l'environnement à Beaune sous l'égide de l'Université des Nations Unies. C'est à ce moment-là que l'on identifie comme problématique la question des déplacés climatiques. Dans son ouvrage « Atlas des futurs du monde » publié en 2010, Virginie Resson, chercheuse et analyste au LEPAC, le laboratoire privé indépendant de géopolitique et prospective, estime qu'à l'échelle mondiale, le réchauffement climatique multipliera par 2, voire par 5 le nombre de migrants d'ici à 2050. À l'heure actuelle, on estime à 200 millions le nombre de migrants dans le monde, tous déplacements confondus. Effectivement, la situation des deltas asiatiques menacés par l'élévation du niveau de la mer, 70 cm d'ici la fin du siècle selon les dernières estimations du GIEC, pourrait à elle seule contraindre des millions de personnes à émigrer, de quoi corroborer les prévisions de l'ONU, qui évalue quant à lui à 50 millions le nombre d'habitants susceptibles de quitter leur lieu de vie en raison des conséquences du changement climatique. Alors on parle de 50 millions, mais finalement c'est un peu difficile d'avoir un chiffre précis dans la mesure où le lien entre dégradation environnementale et décision de migrer reste difficile à établir. Étienne Chauveau.
Oui, c'est un chiffre qu'il est très très difficile de préciser, à vrai dire. Non, effectivement, il y a des situations d'urgence qui ont déjà créé effectivement beaucoup de déplacements de population. Il y a des situations qui sont des dégradations, on va dire, continues, hein, qui je pense, sont plus délicates aussi, enfin plus qui tardent à mettre les choses en route. Et puis, il y a des situations beaucoup plus brutales, hein, qui peuvent aussi effectivement mettre en branle, je dirais, des chiffres de population plus importants. Très, 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 très difficile, effectivement, d'évaluer ce chiffre-là, d'autant plus que l'élévation du niveau de la mer, vous le savez, il est sujet à une grande incertitude, hein, avec une fourchette qui est très, très large aussi. Hein, donc, c'est un élément parmi d'autres, hein, parmi bien d'autres, hein, qui laisse un grand point d'interrogation.
Est-ce qu'on peut dire que les personnes concernées ont conscience de cette échéance, entre guillemets ? Est-ce qu'au Japon, par exemple, les habitants se disent « Tiens, mes petits-enfants ne pourront plus vivre ici dans quelques années ?»
Alors ensuite, tout dépend effectivement des risques. En général, quand on parle du Japon, on pense plutôt au tremblement de terre, hein, ce qui n'a rien à voir par conséquent avec le changement climatique. Le Japon peut être concerné comme d'autres pays parce qu'il y a effectivement un certain nombre de régions basses, hein, et qui là, effectivement, pourront subir les effets de l'élévation du niveau de la mer. Cette question de la conscience est évidemment fondamentale, hein, parce que c'est ce qu'on appelle aussi la connaissance ou la culture du risque, bon, des termes qu'on peut différencier, mais en simplifiant, employer l'un pour l'autre. Elle est absolument fondamentale parce qu'effectivement, plus une population a conscience de ce risque-là, mieux elle peut tout simplement se préparer et s'adapter à ce qui va arriver. Et donc c'est très variable effectivement d'un lieu à l'autre. Là où les risques sont forts en général et surtout récurrents, on peut dire que les populations ont nécessairement une connaissance, une conscience du risque meilleure. Le danger se situe plus dans les régions qui, jusqu'à présent, ont été peu affectées. Et voilà, cette conscience, à ce moment-là, est beaucoup moins, en général, moins développée.
Michel Dess.
Oui, moi, je voulais revenir un tout petit peu là, sur les chiffres de tout à l'heure, là, sur les 50 millions proposés ou avancés ainsi. Là, je reprends aussi, vous avez cité tout à l'heure Véronique Lassaille-Jacob ou Patrick Gonin également, du laboratoire Ruralité à Poitiers, hein, qui travaille sur ces questions et qui montre aussi que finalement, il est très difficile d'identifier uniquement le risque de changement climatique. Et souvent, il est associé aussi à des guerres internes, à des problèmes de grands aménagements, de grands travaux hydrauliques, par exemple des barrages ou des grands barreaux, travaux ainsi, qui font qu'on expulse aussi les populations ou que les populations, parce qu'il y a la guerre, eh bien, fuient également la guerre. Et donc souvent, c'est difficile de discerner exactement ce qui relève totalement uniquement du changement climatique du reste. Hein. Alors ensuite, concernant le Japon, peut-être, c'est aussi toute la problématique du niveau de développement en fait qui se pose, c'est-à-dire que ce soit au Japon, que ce soit dans d'autres régions du monde, ce sont des pays qui ont suffisamment un niveau de développement suffisamment élevé, un niveau technologique suffisamment fort, que l'on peut aussi s'adapter davantage, prévoir davantage, alors que d'autres pays, on le voit actuellement avec Haïti, sont beaucoup plus pénalisés face au Bangladesh, vont être beaucoup plus pénalisés finalement par rapport à ces enjeux.
Est-ce qu'on considère que les déplacés de Xintia en Vendée, je vais me tourner vers vous Étienne Chauveau, sont des réfugiés climatiques ou bien est-ce qu'il y a quand même dans cette terminologie une valeur internationale ? C'est-à-dire qu'en fait, pour être assimilé à un réfugié climatique, eh bien, il faut vraiment quitter son pays.
Oui, alors ça c'est une bonne question. Il y a deux questions en une en fait. Hein. Pour Xintia, moi je... il n'est pas approprié du tout de parler de réfugiés climatiques. Hein. Xintia, c'est plusieurs choses à en dire, évidemment, des tas de choses. Ça n'est qu'une erreur d'aménagement ponctuelle dans un pays qui, globalement, est peu menacé à l'échelle mondiale par le changement climatique. Hein. En France, et sur nos côtes en particulier, il y a effectivement des zones à risque. Mais si on compare ces zones-là avec bien d'autres zones dans le monde, le risque en France est minime. Ça, c'est donc un premier élément de réponse. Alors ensuite... parler de réfugiés donc climatiques pour des franchissements de frontières ou non, je pense que là, c'est une question qui mérite d'être nuancée, dans le sens où il y a des petits pays qui font qu'on va très facilement franchir la frontière, des pays beaucoup plus grands où on va changer complètement, se déraciner, pour autant rester à l'intérieur des frontières d'un État. Donc en fait, voilà, tout dépend un petit peu de la configuration, je dirais, de l'ampleur des zones sinistrées déjà, et puis aussi du pays dans lequel on vit. Il y a évidemment la spécificité des domaines insulaires, les petites îles en particulier, où là, de toute façon, effectivement, les solutions de repli n'existent pas ou très peu. Hein, et là, la question se pose différemment.
Est-ce que les catastrophes naturelles sont considérées comme des éléments du changement climatique ?
Oui, pour certaines. Enfin, c'est-à-dire que quand on parle du changement climatique, bien sûr, on parle de l'élévation du niveau de la mer, de l'augmentation de la température, mais un grand nombre de spécialistes estiment aussi qu'il y aura davantage de tempêtes de plus grande puissance, disons, ou de cyclones, bien sûr. Hein. Donc, on peut penser, effectivement, qu'il y aura davantage, mais on n'en sait pas exactement. Hein.
Et est-ce que finalement, ces catastrophes naturelles, je pense notamment à l'ouragan Katrina en 2005 aux États-Unis sur les côtes de la Nouvelle-Orléans, est-ce qu'elles ne focalisent pas un peu le problème sur des événements ponctuels, donc ces tempêtes en particulier? Et on peut peut-être reprendre le cas de Xynthia sur cette question. Et du coup, est-ce qu'elles ne minimisent pas un peu la signification globale de l'apparition de ces tempêtes?
Ben, disons que pour répondre et rebondir sur ce que disait Michel, et pour répondre donc à votre question antérieure, est-ce que les catastrophes sont considérées comme des éléments du changement climatique? Moi, je dirais pour une très faible part, en réalité. Les catastrophes ont toujours existé. Aujourd'hui, elles sont hyper médiatisées. Aujourd'hui aussi, la population est globalement beaucoup plus nombreuse. La population mondiale a cru. La population s'est concentrée dans des zones, et notamment dans les espaces à risque, sur les littoraux, dans les vallées, etc. etc. Donc, voilà, je crois qu'il faut être extrêmement mesuré dans ce par rapport à cette question-là.
Il n'y a pas plus de catastrophes naturelles aujourd'hui, enfin, disons ces 100 dernières années, qu'avant?
C'est pas complètement... peut-être dans certains domaines, peut-être. Mais regardez, par exemple, le cas de tout ce qui est donc sismicité, tremblement de terre, il n'y en a pas davantage. Par contre, elles font localement beaucoup plus de dégâts parce que la population a été multipliée par 2, 3, 5 ou 10. Donc, voilà, il y a un effet amplificateur, hein, si vous voulez, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Pour ce qui est des phénomènes climatiques, il est certain que l'élévation du niveau de la mer va faire que, dans un même espace, là où les tempêtes ne sont pas forcément plus fréquentes, le simple fait de l'élévation du niveau de la mer va développer davantage de situations à risque, si vous voulez, bien sûr. Mais pour autant, c'est pas forcément que les tempêtes vont être plus remarquables. Et à l'échelle mondiale, il y a des zones effectivement qui sont déjà impactées de manière claire par le changement climatique et d'autres pas du tout. Pour prendre le cas de la France par exemple, rien ne dit dans les modèles futurs que les tempêtes seront plus fréquentes ou plus intenses. Ou en tout cas, bon, c'est une question, on va dire, qui peut être débattue, mais la France est très peu concernée par rapport à d'autres États.
Mais les tremblements de terre, en l'occurrence, n'ont rien à voir avec le changement climatique.
Ça, effectivement, c'est ce que rien vous... à voir. Oui.
D'accord. Tout à fait. On pourrait le croire, donc c'est important de le dire.
Ouais.
Autre phénomène finalement, la hausse, donc pas nécessairement exponentielle mais constante de la population mondiale, est-elle un facteur aggravant dans un contexte de changement climatique où les populations vont être amenées à se déplacer? Et est-ce que depuis longtemps on n'aurait pas dû peut-être réfléchir à ces déplacements et à d'autres terres habitables?
Bon alors, oui, on pourrait penser depuis longtemps, on pourrait s'adapter depuis longtemps, le prévoir. Enfin, depuis longtemps, c'est pas non plus si longtemps. Hein. C'est-à-dire que il me semble que le PNUE, quand il commence à travailler sur cette idée de remontée du niveau de la mer, c'est vers 1988 à peu près. Hein. Donc, c'est pas tout neuf, mais bon, c'est pas non plus très vieux. Et 1988, si on prend la France, par exemple, ben, tous les grands aménagements... que ce soit le tourisme, que ce soit les zones industrielles ou portuaires, Foss, Dunkerque, Saint-Nazaire, Donge, tout ça c'est déjà construit finalement. Hein. Donc voilà, les grandes stations balnéaires du sud de la France, sur le Languedoc, qui sont aujourd'hui menacées, sont déjà construites. Voilà. Et puis ensuite, dans les pays du sud, si je reprends l'exemple d'Haïti, eh bien, le littoral c'est aussi un lieu de survie. Donc c'est un endroit où on peut manger quand on a exploité toute la terre qui est sur les pentes. C'est un endroit où on peut aller pêcher, où on peut aller couper du bois sans demander l'autorisation. Mais au moins c'est un lieu de survie. Donc à ce moment-là, c'est difficile d'empêcher toutes ces populations d'aller sur le littoral, quoi.
Les réfugiés climatiques, on sait les identifier, on leur reconnaît une légitimité. Mais aux yeux de la loi, Cathy Dogon, ils n'existent pas.
Les déplacés, éco-réfugiés, réfugiés écologiques, climatiques, voire environnementaux, il n'existe pas encore de terminologie pour qualifier les populations qui se déplacent à cause des aléas naturels. Le droit international n'a statué sur aucune de ces expressions, et pour cause, il n'a pas statué sur un statut. Car plus que de la justice, il s'agit en fait de politique internationale. Yves Pascoe est directeur au European Policy Center, un think tank basé à Bruxelles, et éditeur pour le site European Migration Law.
Alors, la question des réfugiés climatiques est une question qui arrive de temps à autre et plus ou moins régulièrement à l'agenda politique. C'est une question qui, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle le programme de Stockholm, qui avait été adopté il y a 6 ans, était apparue sur une des priorités ou sur un des objectifs politiques sur lesquels l'Union européenne avait envisagé de discuter. Le programme de Stockholm a été remplacé en 2014. La question des réfugiés climatiques ne figure plus au titre des priorités politiques. Et c'est une question qui n'a pas quitter l'agenda politique, mais en tout état de cause, c'est une question qui allie deux difficultés. Une difficulté d'ordre politique, doit-on effectivement se saisir de cette question-là, et une difficulté d'ordre juridique. Comment est-ce que l'on qualifie ces personnes-là, sachant qu'aujourd'hui, le système de protection internationale est essentiellement bâti sur la question du réfugié, qu'on appelle communément de réfugié politique. Donc, est-ce que l'on doit créer un statut spécifique pour les réfugiés climatiques sans pour autant que ce statut spécifique nuise au statut du réfugié politique ?
La communauté internationale n'a pas encore de réponse à cette problématique, mais quelques États, indépendamment, se sont déjà penchés sur la question. Si votre maison se retrouve bientôt engloutie par les eaux, vous pourrez vous rendre en Suède ou en Finlande. C'est ça, la solution ?
Rien n'empêche qu'un certain nombre d'États décident de leur propre chef, d'accorder une protection spécifique à des personnes qui seraient victimes de catastrophes naturelles. Ensuite, la décision internationale a ceci de difficile, c'est qu'elle prend du temps. Il faut mettre autour de la table un ensemble d'acteurs, définir les objectifs et lancer une négociation pour savoir qui est-ce qu'on protège, comment, de quelle manière, sur quel territoire, pendant combien de temps, avec quel statut. Et d'une certaine manière, ces questions-là sont des questions qui relèvent tout le temps de la souveraineté, parce qu'on parle de personnes qui traversent des frontières et qui échappent en l'espèce à une catastrophe naturelle. Et par conséquent, la négociation sur toutes ces questions-là fait place à des oppositions, fait place à des positions communes, et c'est une négociation internationale qui, si elle se déroule soit dans le cadre de l'Union européenne, soit dans un cadre plus large international, prendra, quoi qu'il en soit, du temps. Et donc ce temps-là, si un certain nombre d'États veulent aller plus vite, ils peuvent toujours le faire, et ça relève de leur souveraineté, le faire tout seul.
Le Brésil, par exemple, a accueilli 40 000 Haïtiens en 2011, suite au séisme de 2010, des personnes qui ont toutes obtenu le droit d'habiter indéfiniment. Suite au changement climatique d'une région, ce sont souvent les pays voisins qui endossent le rôle d'hôte.
De manière générale, les phénomènes migratoires sont dans leur grande majorité des phénomènes régionaux. Qu'il s'agisse de migrations causées par les conflits, qu'il s'agisse de migrations causées par la pauvreté, qu'il s'agisse de migrations causées par les phénomènes climatiques ou les désastres naturels, on se rend compte de manière relativement stable et ce que disent les recherches, c'est que ces mouvements-là sont essentiellement des mouvements à caractère régionaux, et donc par voie de conséquence, ce sont les pays limitrophes qui en supportent soit le poids, soit acceptent d'être solidaires en fonction de la manière dont on considère ces mouvements-là.
Encore faut-il que l'entente entre les deux pays soit cordiale. Une question s'invite alors au débat. Les frontières sont-elles toujours d'actualité ? Dans l'histoire, de nombreux peuples vivaient au rythme de la nature sans être enfermés par le principe de nation.
La nation peut être considérée comme un frein si l'on considère que les réponses à apporter à des situations ne sont pas, par définition, des réponses nationales, mais des réponses collectives. Et si on prend la question, par exemple, des phénomènes migratoires, il me semble, et j'en suis en tous les cas intimement convaincu, que les réponses à apporter aux phénomènes migratoires que nous rencontrons aujourd'hui et que nous rencontrerons demain, peut-être du fait des changements climatiques, certainement d'ailleurs du fait des changements climatiques, doivent par définition être des réponses transnationales. Et en l'espèce, il existe un cadre qui est le cadre de l'Union européenne qui permet de répondre à ces questions-là. Et de ce point de vue-là, la nation est un facteur bloquant à la décision commune et à la coopération commune.
Face au nationalisme ambiant, Yves Pasquaud redoute que l'abaissement des frontières ne soit pas à l'ordre du jour. En résumé, les vrais chanceux dans l'histoire, ce sont ces Hollandais qui luttent depuis des siècles avec leurs moulins contre la montée des eaux. Ils bénéficieront des avantages de l'espace Schengen et la générosité de la Finlande ou de la Suède.
Mais par contre, pour les habitants des îles de Tuvalu, ce n'est pas tout à fait la même histoire. On y reviendra un peu plus tard. Merci beaucoup, Cathy. D'après vous, est-ce qu'on doit aller vers une reconnaissance du statut de réfugié climatique, ou finalement, est-ce que le statut de réfugié tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire sans distinction particulière, est suffisant ? Michel Dess.
Non, je pense. Alors peut-être le réfugié climatique, c'est peut-être un peu, peut-être trop étroit, mais peut-être un réfugié de l'environnement d'une manière un peu plus large. Je pense que ça pourrait être tout à fait. Enfin, il faudrait vraiment avoir ce statut, effectivement. Oui.
Comment vous dissociez les deux ?
Oh, c'est simple. Réfugié de l'environnement, eh bien, ça peut être. Enfin, c'est simple et c'est compliqué, mais réfugié de l'environnement, ça peut être des personnes qui sont chassées parce qu'il y a eu un grand groupe, comme une exploitation minière ou la création d'un barrage, par exemple. Et donc là, on peut plus habiter parce que vous habitez à côté de Tchernobyl, parce que vous habitez à côté de Fukushima. Et donc, à ce moment-là, vous ne pouvez plus habiter, en fait, pour des raisons environnementales, dans un lieu précis. Et donc parfois, on le voit bien que si vous avez des grandes sécheresses, parce que là, on a parlé souvent de, jusqu'à présent du climat sous forme de tempête et de temps court, brusque. Mais en fait, beaucoup de réfugiés climatiques, on se situe dans un temps très long, c'est-à-dire la sécheresse ou même une remontée du niveau de la mer, mais qui va être très lente finalement. Hein, ce n'est pas non plus uniquement des à-coups. À ce moment-là, eh bien, ça se rapproche très vite de ce type de réfugiés où on ne peut plus habiter dans un lieu qui était le lieu du quotidien et du familier. Donc il faut partir.
Étienne Chauveau, quelque chose à ajouter ?
Non, effectivement, je suis tout à fait assez d'accord avec ce que propose Michel, c'est-à-dire un statut de réfugié effectivement environnemental. Hein. Les causes ne sont pas seulement climatiques. Hein. Simplement rajouter le fait que, indépendamment de, en plus de ce qu'a dit Michel, on peut aussi rajouter le fait que tout simplement, certains espaces sont devenus difficilement vivables à cause d'une mauvaise gestion des ressources, tout simplement. Ça peut être par une croissance démographique trop importante, mais pas forcément. Et que ça aussi, c'est un élément qui peut favoriser le fait qu'un lieu de vie devient très difficilement vivable.
The Immigrant Song par Led Zeppelin, titre de 1970. Les régions les plus exposées sont aussi les plus pauvres du globe. Néanmoins, les pays développés n'échappent pas à la menace du climat, qui, elle, ne connaît pas de frontières. En témoignent les ravages de l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans, au sud des États-Unis. Plus près de nous, l'érosion ou la désertification des sols menace aux marges de l'Europe, notamment en Turquie, où 160 000 km² de sols cultivables se dégradent. Selon l'OCDE, en 2012, les 10 villes les plus économiquement menacées par la montée des eaux se trouvent aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Japon. De son côté, la Chine doit faire face à l'augmentation du niveau de la mer sur son littoral, mais aussi à l'expansion du désert de Gobi au nord, qui progresse de près de 10 000 km² chaque année. Certaines régions sont toutefois plus à risque et sont au centre des préoccupations actuelles en ce qui concerne les migrations climatiques. Ainsi, les premiers éco-réfugiés officiels reconnus sont issus du Bangladesh. Il y a 10 ans, la majeure partie de l'île de Bola a été littéralement engloutie par les eaux, provoquant le déplacement de quelques 500 000 personnes. Les prévisions sont alarmistes concernant le pays le plus densément peuplé au monde, 150 millions d'habitants pour 144 000 km². Selon l'économiste Kazi Ahmad de la Dhaka School of Economics, ce n'est pas moins du tiers de la population qui sera déplacée d'ici à 2050. Alors on sait que le niveau de la mer monte, on sait que les déserts avancent. Est-ce que l'homme doit chercher à s'adapter à ce nouvel environnement? Et le peut-il systématiquement d'ailleurs?
Tout à l'heure, Étienne Chauveau disait qu'il y avait toujours eu finalement des catastrophes naturelles et il y avait toujours eu des catastrophes climatiques. Donc l'adaptation, oui, les hommes savent le faire depuis longtemps. Quand on s'intéresse au peuple de la bande sahélienne, ou que ce soit au nord du Sahara ou au sud du Sahara, donc pour le Sahel, le sud du Sahara, eh bien, il y a des formes d'adaptation qui sont ancestrales dans la manière de gérer l'eau, de se déplacer, d'être des semi-nomades, même d'avoir de la migration saisonnière, puis plus tard, à partir des années 70, de la migration internationale. Donc vous voyez que les formes d'adaptation, elles sont très nombreuses, oui.
Mais elles existent vraiment? Est-ce qu'on peut s'adapter dans toutes les situations? Ou est-ce que le changement est trop soudain, trop rapide finalement, même si on parle de quelques années, qu'on n'a pas le temps de s'adapter?
Ah oui, il y a toujours ce problème de changement climatique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois des séquences rapides, avec un cyclone, une tempête, une crue, et puis en même temps du temps très long et de l'aléatoire. Puisqu'une sécheresse, par exemple, c'est totalement aléatoire, je pense. Je pense qu'Étienne Chauveau pourrait développer là-dessus, sur les problèmes hydriques. Mais si vous voulez, l'aléatoire pose un problème. C'est que même s'il pleut très peu dans une région, si on sait que tous les printemps, début de printemps, il y a une petite pluie, on peut lancer un semis, par exemple. Si c'est aléatoire, et ça veut dire que est-ce qu'il va pleuvoir cette année, et l'année dernière il n'a pas plu, est-ce que cette année il va à nouveau pleuvoir, et puis la troisième année, est-ce qu'il va pleuvoir aussi? Vous voyez qu'on est là vraiment dans de l'aléatoire. Et donc quand on a des sécheresses comme ça par cycle qui durent 4, 5, 6 ans, et bien à ce moment-là, oui, on ne peut rien faire, il faut partir. De même pour des zones qui vont être, comme les cas des îles Basses, là, qui vont être recouvertes par l'eau, petit à petit, effectivement, là, on ne peut pas s'adapter, il faut partir à un moment donné, oui.
4, 5, 6 ans, c'est la durée minimum, j'ai envie de dire, avant de décider du départ.
Je pense que...
Parce que a priori, une sécheresse qui durerait 2 ans, ses effets sont immédiats aussi sur les cultures.
Oui, 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 mais on peut toujours penser que ça va revenir. Et que donc, je pars là pendant... Je vais dans un pays voisin ou je pars dans une zone où il y a un peu plus d'eau, bon, et on va m'accueillir, je vais être dans un camp de réfugiés, par exemple, mais ou dans une banlieue d'une grande ville africaine, quoi, mais je vais attendre avec la famille. Mais vous voyez qu'au bout de 2-3 ans, il y a cette si on est encore dans l'incertitude, si la pluie n'est pas revenue, effectivement, là, on arrive sur d'autres scénarios, quoi.
En 1992, on va refaire un petit bond dans le temps, l'ancien président de la République des Maldives avait affirmé lors du sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro que les îles risquaient de disparaître au cours du prochain siècle en raison du réchauffement climatique et de l'élévation du niveau de la mer. Donc un risque semblable existe actuellement sur l'archipel de Tuvalu, on l'évoquait tout à l'heure, dans le Pacifique. 400 000 personnes sont menacées. Comment est-ce qu'on déplace 400 000 personnes ?
Alors on est typiquement ici sur un risque effectivement, mais qui s'étale effectivement dans le temps. Donc il n'est aucune question de prendre en charge 400 000 personnes à un moment donné. Donc c'est quelque chose si c'est quelque chose qui est anticipé, si effectivement il y a des accords, on en parlait tout à l'heure, avec des pays qui sont déjà portés volontaires pour accueillir des personnes. Ce sont des évolutions qui se déroulent sur des décennies. Théoriquement, on a le temps de s'y préparer effectivement. Ensuite, c'est bien sûr, faut pas rester inactif, ça suppose aussi des accords internationaux. Il y a aussi la notion de solidarité, bien sûr, qui doit jouer et qui, sans cela, à défaut de cela, effectivement, rendra les choses pour certains espaces très compliquées. Je voulais aussi rebondir un petit peu sur ce que disait Michel tout à l'heure, sur ces adaptations, est-ce que l'homme a le temps de s'adapter ? Effectivement, l'homme a déjà montré par le passé qu'il avait eu la capacité de le faire. Ensuite, on ne peut pas répondre à cette question-là globalement, tout dépend effectivement des types de risques. Dans la notion de sécheresse, effectivement, on peut toujours s'attendre à ce que les choses reviennent. L'élévation du niveau de la mer, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, parce que là, c'est sans retour, en tout cas à l'échelle de temps humaine, bien entendu. Donc là, on est face à des problématiques qui sont nouvelles, malgré tout. Et il y a différentes formes d'adaptation qui sont en train, sur cette question du risque de submersion, qui sont en train d'émerger. Celle de se reculer un petit peu du littoral en fait partie, ce qu'on appelle donc le recul stratégique. Et puis, il y a des formes d'adaptation du bâti aussi. Ensuite, tout dépend du niveau de gravité du risque, des sommes d'enjeux à déplacer, etc. Quoi.
Concernant donc les Tuvalu et puis les formes d'adaptation qu'il y a, est-ce que l'on peut déplacer en fait 400 000 personnes d'un seul coup ? Il faut savoir que dans ces petites îles, parfois jusqu'à la moitié de la population actuelle est déjà en diaspora et en migration. Quand on parle Haïti, on compte sur 10 millions d'Haïtiens, 1 million à peu près, qui sont déjà ailleurs. Si on s'intéresse à Montserrat dans la Caraïbe, une petite île de la Caraïbe, c'est plus de la moitié de la population qui est déjà partie. Alors, vous voyez qu'il y a déjà une forme de départ. Ensuite, se posera, si cette île disparaît, Tuvalu, mais pareil pour Kiribati ou les Maldives, le problème en fait du territoire national, de la perte d'un territoire national et donc de l'accueil quelque part dans un pays voisin de cette autorité nationale, accueil ou non. Et donc forcément, si aucun pays n'accueille d'une manière terrestre finalement l'état des Kiribati ou de Tuvalu, on peut penser que ce nouvel état qui est très récent finalement va disparaître. Et donc ça pose le problème de l'apatride, et aussi de la nation, de l'identité nationale. Comment est-ce qu'on peut être d'une nation s'il n'y a plus de sol, s'il n'y a plus d'État ?
Au niveau des littoraux, justement, Michel Dès a commencé à l'aborder en début d'émission. On sait bien que si les hommes se sont effectivement agglutinés au bord de la mer, au départ, c'était pour de très bonnes raisons. Donc d'après vous, Michel Dès, ces raisons, elles sont toujours valables ?
Oui, bien sûr. L'économie mondialisée dépend de la mer. 90% du commerce mondial est transporté par des bateaux de marchands. Donc les grandes zones de production aujourd'hui, d'acier ou d'aluminium, etc., les grandes raffineries de pétrole, tout ça se trouve essentiellement dans les littoraux, le long des littoraux. Donc on a besoin, bien sûr, de la mer et pour le moment, on est dans ce modèle.
Donc on va reculer petit à petit. Il est absolument hors de question d'imaginer, par exemple, qu'une partie des habitants du littoral chinois se déplace plus à l'intérieur des terres qui, pour le coup, sont quasiment vides.
Si, enfin, tout ça pourra se faire, sans doute. Mais petit, vous voyez que... si on se place ensuite, si on change d'échelle un peu temporelle et qu'on se place dans une échelle humaine, vous voyez, moi j'ai encore 30 ans à vivre à peu près. À mon échelle, à moi, le changement, l'élévation du niveau de la mer, elle sera de, je sais pas, une dizaine de centimètres au maximum. Donc toute la Chine ne va pas se déplacer si rapidement que ça. Ça va se faire sur les siècles qui viennent. Au fur et à mesure, je pense.
On dit que les principales zones à risque sont en Hollande, aux États-Unis et au Japon. On parle de quel pourcentage de surface concernée ?
Alors déjà, c'est quelque chose qui est... Il y a des choses comme ça, c'est pas forcément... Ça n'est pas forcément la réalité. Il y a beaucoup plus effectivement, d'espace que ça. Ils sont même plus touchés. On parlait tout à l'heure du Bangladesh. S'il est question effectivement des changements climatiques, notamment de l'élévation du niveau de la mer, mais pas seulement. Donc, à l'échelle des États, c'est rarement un pourcentage important, sauf pour les Pays-Bas, qui est une exception mondiale quasiment, puisque un quart effectivement de pays est situé sous le niveau de la mer. Et donc, c'est un pays très particulier de ce point de vue-là, qui a mis beaucoup de moyens pour effectivement reconquérir des espaces sur la mer et ensuite se protéger, effectivement. Ce n'est pas tant la question du pourcentage finalement des surfaces, vous voyez, qui concernées, que le fait qu'il y a dans certaines zones des très fortes concentrations de population, d'énormes villes, et que ça, effectivement, ça rend le problème complexe.
On parle de risques, en fait, depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des risques qui sont aujourd'hui des certitudes? Si oui, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on peut rien faire contre ça?
Non, bien sûr. Lutter contre l'élévation du niveau de la mer, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, le terme de lutte, vous savez, contre le changement climatique est un terme qu'on pourrait très, très largement critiquer aussi. On ne peut pas lutter contre, on peut s'adapter au mieux. Hein. Certitude, non, dans le sens où, par rapport à ce risque-là, effectivement, on le disait tout à l'heure, il y a une très grande incertitude hein, sur le niveau atteint en 2100 et au-delà. La fourchette est très large. Beaucoup va dépendre aussi, effectivement, des efforts qu'on fera pour réduire notre empreinte écologique à travers notamment le relargage des gaz à effet de serre, hein, entre autres. Hein, mais c'est très, très compliqué d'être plus précis. Hein.
Les migrations climatiques sont devenues un enjeu humanitaire mondial. Ce fut pourtant, à une époque, un phénomène tout à fait naturel. Vassili Moreau-Miossec.
Les changements climatiques terrestres ont souvent participé à l'évolution des espèces, y compris pour les Homo sapiens. Mais parfois, l'adaptation est compliquée et le meilleur moyen de